Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Sans plus attendre, notre billet.
Nature Urbaine, le billet vert.
Ce billet est intitulé « C'était il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité ».
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
Nous étions comme lions en cage, un peu comme aujourd'hui. C'était le printemps, un printemps où il faisait beau. Une saison qui n'existe peut-être que dans les récits historiques. Ici comme ailleurs, on l'appelle le printemps sans fin, mais c'était tout simplement le nôtre.
Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité.
Nous faisions des visios en short, des blablas en pyjama. Les calls s'enchaînaient, les kids se déchaînaient. Même les mamies se piquaient de techno à base d'anglicisme, avec WhatsApp pour étendard, comme preuve de leur dynamisme. La tendresse digitalisée, à défaut de bises échangées, une sorte de Tinder family. Eh bien quoi, il y avait bien autrefois Kinder et la vache qui rit. Nous étions aussi cette deuxième ligne, entendant l'écho de nos pas dans des lieux vides, des bureaux désertés, comme nous qui garantissons la propreté, nous, les agents de sécurité, ou nous encore, les jardiniers. Nous étions également, derrière notre masque, avec amour confectionné, ces commerçants à suer derrière le comptoir ou la caisse, ou encore nous, ces livreurs, à pédaler, pour nous, clients distants et boulimiques, au caddie plein de bonheur calorique. Nous étions enfin ceux pour qui, trouvant soudainement le rideau baissé, être confiné, c'était et c'est encore, hélas, voir son travail confisqué. C'était il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Nous faisions les courses parées comme des astronautes, dans les supermarchés, le plein air étant fermé. Il fallait voir ça, les gants MAPA, les lingettes pour tout aseptiser, et même le pain s'était préconisé, réchauffé à 60 degrés. Nous avions un coup d'avance ainsi casqué sur les Daft Punk et Thomas Pesquet. Parfois, au contraire, nous flânions le nez à l'air, car les masques introuvables avaient été déclarés superflus. Ce n'était pourtant pas une grippette, mais autorisons-nous aujourd'hui la variante anglaise, une superflue. Nos sorties avaient le goût de l'interdit, un air des gardiens de la galaxie. Pour quelques dizaines de mètres seulement, marcher seul le long des rues, où nous allions tous deux avant, derrière les grilles des parcs fermés, donnait la sensation d'explorer la Lune. L'espace, décidément. C'était il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Nous oublions, dans un sens, les casseroles, les bassesses politiques, à l'exemple des érections municipales, derrière la ligne de front était remisée, mise au placard. Mais c'est toute notre batterie qui tintinabulait chaque soir pour nous donner du courage et pour nous remercier, nous, ceux qui nous soignaient et nous soignent encore. Et nous mangions, nous buvions, nous pétrissions, nous fabriquions, nous cuisinions. Les barbecues s'enchaînaient, les litrons se vidaient. C'était il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Homme, nous nous laissions pousser la barbe dès le mois de Marx. Femmes aussi, de nous épiler, quelle barbe! Nous serions d'ailleurs 40% du genre féminin à avoir eu la même pileuse idée. Ce sont autant de moins de prétendants pour le titre suprême, dans moins d'une année, car c'est bien connu, c'est en se rasant qu'on pense à y aller. Joe Dassin, dans la version originale, disait « Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Nous faisions du sport, dans l'espoir bien vain de ressembler à une sculpture de Rodin. C'était il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. Nous écoutions les oiseaux chanter, qui eux-mêmes semblaient prendre leurs aises. Nous nous souvenons tous du cliché de ce marchand tranquille face à la comédie française. Nous regardions ce qui depuis toujours est là, immuable, les floraisons, les fruits, dans les jardins, sur les balconnets. Nous nous mettions à jardiner. Était-ce pour nous vider la tête, pendant que souffrait seule une partie de nous, nos potes âgés? C'était il y a un proche, il y a 100 000 Français, il y a 3 millions d'humains, d'individualités. Nous rêvions de monde d'après, sans savoir que le terme deviendrait en si peu de temps désuet. Je dis « nous » et pas « on ». Pas seulement parce que, petit déjà, on me disait « on est un con », ce qui en soi était bien idiot. Je dis « nous » et pas « on », ce pronom indéfini et quelque peu difforme, dont on se détache, car nous étions éloignés mais reliés, nous étions bizarres mais ahuris, nous étions seuls mais unis. Et si enfin, ce si long printemps trouvait un jour sa fin ?
On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Nature urbaine, l'interview, première partie.
Et notre invité du jour a pris le train, quittant les rives de la Maine pour voir où les rails le mènent avec un petit peu de retard, laissant derrière lui la douceur angevine pour voir Paris qui se confine. Il est parti de bonne heure, normal me direz-vous pour un horticulteur, mais ne serait-ce pas aussi un professeur, un chercheur, un entrepreneur, un trompettiste, mais cela ne rime pas. En aucun cas un amateur. Il est venu avec tous ses instruments, tout son orchestre de biodiversité. Bonjour Gilles Galopin.
Bonjour.
Alors Gilles, vous êtes enseignant chercheur en biologie végétale. Vous enseignez à Agro Campus Ouest, qui est devenu récemment l'Institut Agro, et vous conduisez vos recherches dans le cadre de l'Institut de recherche en horticulture et semences, l'IRHS, à Angers. Et nous allons le découvrir, vous collaborez surtout avec une grande variété de laboratoires, dans les sciences du vivant certes, mais aussi dans les sciences humaines et pas seulement. Vous créez aussi de nombreuses passerelles avec les entreprises et le monde associatif. Nous allons aborder le thème sur lequel se concentrent vos travaux depuis une dizaine d'années, les relations entre la nature et la santé. Un thème qui vous occupe et qui nous préoccupe dans la période que nous vivons. Pour toutes ces raisons, nous n'aurons pas trop de deux émissions à vous consacrer. Nous avons donc créé ce cycle, cette mini-série, en deux épisodes intitulés « La nature, c'est la santé ». Dans cette première émission, nous allons poser les bases, découvrir comment, dans les villes, créer de nouveaux équilibres s'appuyant sur les bienfaits du végétal, en particulier pour la santé. Et dans la deuxième émission, nous aborderons plus spécialement le thème des jardins de soins. Alors Gilles, ma première question pourrait être « Qu'est-ce que la nature ?» Et je pense que la réponse constituerait la totalité de notre émission. Et c'est d'ailleurs, chères auditrices et chers auditeurs, ce que nous essayons de faire à chaque numéro avec la contribution de scientifiques, naturalistes, philosophes, architectes. Alors vous, Gilles, vous parlez d'écosystème urbain. De quoi s'agit-il en résumé et qu'est-ce qui caractérise cet écosystème urbain ?
Bon, bien pour commencer, merci pour votre accueil. Alors permettez-moi de vous parler de nature quand même. Hein, et surtout... Pourquoi pouvons-nous parler de nature urbaine ? Alors la nature, pour certains, est réservée, on va dire, aux natures naturelles, hein, voilà, historiques. Et aujourd'hui, nous, on parle de nature urbaine. Alors pour moi, c'est quoi ? Je commencerai par dire que c'est d'abord le vivant. C'est d'abord le vivant, c'est-à-dire les êtres vivants qui trouvent un équilibre au cours de leur vie, au cours du temps, des interactions entre les êtres vivants et le milieu qui l'entoure. Voilà, donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et un jour, on s'est posé la question en disant comment amener de la nature dans le milieu urbain. Et on a commencé par amener du vivant. Alors, on a amené du vivant, c'est-à-dire de la biodiversité, des espèces vivantes, des mammifères, des plantes, des insectes, voilà. Et ce vivant, en fait, on l'a contenu dans des petits espaces qui étaient trop petits, d'ailleurs, pour leur permettre de trouver un équilibre. Donc, on a agrandi ces espaces. On les a appelés des corridors écologiques. Puis après, on s'est aperçu pour trouver l'équilibre, il fallait qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, on a fait ce qu'on appelait des trames. Alors, des trames vertes de végétal, des trames bleues, parce que l'eau est importante dans la nature. Des trames brunes également. Le sol est important, il ne faut pas l'oublier, même en milieu urbain. Voilà. Et donc, en créant toutes ces trames, eh bien, on va favoriser les interactions entre ces êtres vivants et le milieu qui est, en fait, l'espace urbain. Alors, la question qui se pose quand même, c'est « Et l'homme là-dedans ? » Où est l'homme ? Hein ? Que fait-il l'homme et comment se situe par rapport à ça ? Et c'est là qu'on peut parler, en fait, d'écosystème. Hein, parce que, heureusement, depuis 15 ans, enfin, on a considéré que la ville pouvait être un écosystème. Alors, encore une fois, c'était une révolution, hein, parce que ce n'est pas un écosystème naturel, c'est un écosystème anthropique. Mais encore une fois, on a reconnu que la ville était un écosystème. Et enfin, l'humain, qui est quand même le vivant, et qui aujourd'hui vit au niveau mondial à plus de 60% de l'espace urbain, heureusement, maintenant, il va vivre dans un écosystème. Voilà, donc aujourd'hui, on peut parler d'écosystème, on peut parler de la ville, et donc je crois qu'on va aborder par la suite, effectivement, toute cette notion de c'est quoi l'écosystème, comment ça fonctionne, et comment on peut finalement l'encourager, le stimuler et favoriser sa durabilité.
C'est sa durabilité qui passe, comme vous l'avez dit, par des équilibres. On va y revenir. Mais du coup, la deuxième question, elle est assez évidente. Nous avons parlé de nature. Mais qu'est-ce que la santé ? Quelle est sa définition ?
Alors, effectivement, c'est la deuxième jambe, on va dire, de notre intervention. La santé. Alors déjà, je vais commencer par une définition de la santé qui, malheureusement, a été trop longtemps oubliée. Mm-hmm. C'est celle de l'Organisation mondiale de la santé qui date de 1946.
Oui, c'est hier.
Ah, c'est hier, effectivement. Tout à l'heure, vous parliez de siècles et autres. Oui, mais alors, donc c'est quoi ? En fait, c'est un parfait, c'est un état complet, parfait, de bien-être physique, mental et social. Voilà. D'accord. Et donc, ce qui est important à voir là-dedans, c'est que ça ne se limite pas simplement à l'absence de pathologie, mais on parle bien de bien-être. Alors, quand on parle de ça, ce qu'il faut voir, c'est que finalement... la santé, ce n'est pas un état stable. La santé, c'est quelque chose qui évolue. Tous les jours, à tout instant, notre santé évolue. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et donc, on va avoir des facteurs de ressources qui vont favoriser notre bonne santé. Et on va avoir des facteurs de risque qui vont induire, on va dire, une pathogénèse, donc une pathologie. Alors, on a l'habitude de parler de pathologie, parce que ça, c'est un terme qu'on connaît.
Beaucoup.
Par contre, parler du bien-être... C'est l'autre mot qu'on utilise moins souvent, qu'on appelle la salutogénèse. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu que la nature est un facteur de ressources et qu'elle peut contribuer effectivement à la salutogénèse.
Alors, la salutogénèse, vous aurez entendu, la santé ne se limite pas à l'absence de pathologie, de maladie, c'est un état de bien-être total. Salutogénèse, c'est le mot que nous retiendrons. Alors, quelles conséquences a eu notre détournement de la nature sur la santé ? Puisqu'on vit de plus en plus, comme vous l'avez dit, dans des lieux très anthropisés.
Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des ouvrages qui le citent. Hein, l'homme s'est détourné de la nature. Alors, je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'était pour se protéger. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mmh. Quand on a construit des villes, c'était pour se protéger des animaux sauvages. D'ailleurs, je voudrais dire qu'à l'époque, on n'était pas en haut de la chaîne alimentaire. On était au milieu de la chaîne alimentaire, on avait des prédateurs. Donc on s'est protégé avec, entre guillemets, notre intelligence, on a inventé plein de choses, et on a pensé, deuxième étape, qu'on pouvait s'émanciper de la nature, qu'on pouvait vivre sans, on n'avait pas besoin. Voilà, grave erreur. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de situations présentes le confirment, on a besoin de la nature, et heureusement. Heureusement parce que nous sommes vivants, l'homme est vivant, ne l'oublions pas. Le vivant, ça veut dire qu'on vit en interaction avec le vivant, donc l'ensemble des autres espèces vivantes qui constituent la biocénose de nos écosystèmes, et dans un environnement donc, qui est la ville.
Alors, vous nous dites que la nature peut améliorer la santé, vous parlez de services écosystémiques, vous vous raccrochez souvent pour parler des relations entre nature et santé à cette notion qui a été popularisée par le Millennium Ecosystem Assessment au début des années 2000. Quels sont ces services en ville et quel lien il peut y avoir avec la santé ?
Alors, j'insiste aujourd'hui pour dire que les services écosystémiques, aborder la notion de nature en ville par les services écosystémiques nous permet de faire un progrès énorme. Et surtout un progrès pour la ville de demain. La ville que nous allons construire pour les prochaines décennies. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, il y a plusieurs types de services écosystémiques. Je vais commencer par le premier, qui est le plus important. Mmh. C'est le service, en fait, qui favorise la santé de l'écosystème urbain. Si ce service n'existe pas, il n'y a pas d'écosystème urbain. S'il n'y a pas d'écosystème urbain, notre santé est en danger. Donc, ce premier service, nous, on l'appelle les services support. C'est quand on va amener de la biodiversité dans la ville, qu'on va favoriser son dynamisme, son fonctionnement, sa durabilité, qu'on va créer cet écosystème. Ça, on appelle ça les services supports avec des sols, du vivant, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier service qui est pour la santé de notre écosystème. Les autres services, ils dépendent de celui-ci. C'est-à-dire que ces autres services, on va en avoir trois, ils vont, vous allez voir, indirectement avoir un impact sur la santé. Le premier, c'est ce qu'on appelle les services de régulation. C'est-à-dire que si l'écosystème fonctionne, on va avoir une régulation, alors, de la qualité de notre air, une régulation de la température. On parle d'îlots de chaleur. La nature va réguler ces îlots de chaleur. Des régulations aussi par rapport à des accidents climatiques, des inondations, par exemple. Hein, voilà. Donc, ce sont tous les facteurs qui vont réguler notre écosystème. Le deuxième service, qu'on appelle les services d'approvisionnement, c'est-à-dire la nature va nous apporter des éléments. Alors quoi ? Du bois pour construire nos maisons, pour chauffer, d'autres substances naturelles qu'on va utiliser, et aussi, bien sûr, pour se nourrir. Alors c'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Donc l'agriculture urbaine fait partie des services d'approvisionnement. Et puis enfin, le troisième, ce qu'on appelle les services sociaux, c'est-à-dire les services qui vont faire que notre collectivité va trouver un équilibre pour vivre ensemble. Voilà. Donc, ce sont tous les services sociaux qui interviennent à ce niveau-là. Alors, vous me posez la question.
Oui, mais je vous pose la question.
Pour la santé.
Voilà. Qu'en est-il ?
Alors, il n'y a pas de service écosystémique de santé. Mm-hmm. Vous l'avez remarqué. Mm-hmm. Hein ? Alors, pourquoi ? Ça veut dire que, en fait, la santé, je l'ai dit tout à l'heure, que c'était quelque chose qui bougeait sans arrêt. Mm-hmm. Et donc, les besoins qu'on va avoir pour être en bonne santé ne sont pas les mêmes quand vous êtes enfant que quand vous êtes âgé, sont pas les mêmes quand vous êtes au travail ou quand vous êtes chez vous. Donc en fait, ils vont bouger. Et donc la santé va avoir de multiples critères qui vont favoriser la santé. Et donc elle va aller chercher des éléments dans chacun des trois derniers services que j'ai présentés. Alors je vais le donner un titre d'exemple.
Ah, bah, parfait, quelques exemples pour nos auditeurs.
Ça sera plus simple. Voilà, je prends un exemple. On parle aujourd'hui du réchauffement climatique. Mm-hmm. Alors, entre parenthèses, j'en profite quand même, je suis scientifique. On commençait à en parler dans les années 70. On ne croyait pas à l'époque. Hein. Mm-hmm. Bon, après, on a parlé des années 90. Maintenant, on a compris que c'était sérieux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de santé. Hein. Donc, dans l'exemple que je voulais donner, le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. On est tous conscients que c'est important. Eh bien, par rapport au réchauffement climatique, le service de régulation est important. Mmh. Hein, aujourd'hui, quand on a des pics de chaleur en période de canicule, on sait qu'aujourd'hui, la présence d'arbres en ville peut baisser jusqu'à 8 à 10 degrés hein, en période de canicule. Donc, le fait de réguler cette température va faire que les personnes vulnérables ou des personnes âgées seront moins sensibles et on va réduire le risque de mortalité. Par contre, alors, sujet d'actualité, aujourd'hui, avec le confinement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui, psychologiquement, ressentent un mal-être.
Ah oui.
Eh oui. Et donc aujourd'hui, bah, moi, les services sociaux, je suis persuadé que dans les semaines, dans les mois, ils seront importants. Et d'ailleurs, permettez-moi aussi de préciser que ces services sociaux, c'est aussi ceux-là qui ont fait qu'on a fortement milité au premier confinement pour ouvrir nos parcs et nos jardins.
Absolument.
Voilà.
L'extérieur nous était fermé. C'était le petit clin d'œil tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut citer comme services sociaux, comme interaction entre ces services sociaux et la santé ?
Alors, les services sociaux, alors dans les critères de santé qu'on verra, je pense, plus tard,
oui. Hein,
y a des critères physiques, mentaux, mais également sociaux, psychosociaux. Mm-hmm. Hein, et donc, c'est le fait de se retrouver, le fait de pouvoir partager. L'isolement est un facteur de risque important par rapport à notre santé. Mm-hmm. Donc, tous nos espaces de convivialité sont essentiels, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics, hein, dans nos espaces urbains.
Alors, on a posé le cadre, on voit que cette santé, elle est dynamique, qu'elle est en interaction avec les écosystèmes, quelque chose qui est là aussi multicritère, comme vous l'avez dit. On va voir dans la deuxième partie de l'émission, chères auditrices et chers auditeurs, comment favoriser de nouveaux équilibres au bénéfice de la santé, notamment à l'échelle des quartiers. On a cité quelques bénéfices pour la santé. Alors, vous avez initié, il y a à peu près 5 ans, des travaux qui sont pionniers, il faut le dire, qui relient les sciences du vivant et les sciences humaines, notamment en collaborant avec un laboratoire de psychologie. De manière intuitive, on imagine assez bien les effets positifs des espaces de nature sur la santé physique. Pratiquer un exercice physique, marcher, courir, c'est plus aisé en plein air et puis ça améliore bien des choses. On se dit que notre rythme cardiaque est amélioré, on a pu le lire. Il y a un sentiment d'effort qui nous semble salvateur. Quels effets de la nature sur la santé physique on peut citer à titre d'exemple ?
Alors, permettez-moi avant de répondre à cette question-là.
Bien sûr.
Je voudrais juste
poser une autre question.
Non, juste te dire que on a une veille donc forcément sur toutes les publications internationales sur le sujet. Et en fait, quand on regarde, eh bien en fait les sujets sur la santé physique représentent environ un quart des travaux au niveau international. Environ la moitié concerne les effets sur la santé mentale. Mm-hmm. Donc on voit bien que c'est un sujet vraiment fondamental aujourd'hui.
Oui.
Il y a aussi des travaux, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sur la santé psychosociale.
Oui.
On l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, alors c'est important de le dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travaux finalement qu'on appellerait mix. C'est-à-dire que quand on parle de nature, bah, ça va avoir des effets sur la santé physique, sur la santé mentale et également sur la santé psychosociale.
Mm-hmm.
Voilà. Donc pour revenir maintenant à votre question, après avoir présenté ce cadre, on va dire, c'est que au niveau physique, en fait, je vais juste citer un certain nombre d'exemples.
Hein. Oui.
Un point qui est important quand même, j'entendais encore ce matin d'ailleurs sur une radio concurrente, enfin pas concurrente mais complémentaire.
Un confrère.
Un confrère, voilà, hein, que l'obésité est un problème important.
Mm-hmm. Hein.
Et donc l'activité physique a un impact sur l'IMC. Aujourd'hui, alors l'IMC a aussi des conséquences du coup, les gens qui se présentent des surpoids,
mm-hmm.
hein, sur plein d'autres problèmes de santé. Je crois qu'il y en a 18 qui ont été cités. Hein. Mais je citerai les problèmes cardiovasculaires. Hein. Je crois même la nature va réduire les rythmes cardiaques.
Mm-hmm.
Hein, voilà. Donc des effets vraiment significatifs et mesurables.
Et mesurables. Alors, vous citiez d'autres effets. Je crois qu'on peut en citer en matière de stress, d'anxiété, de dépression, de restauration de l'attention, de déficit de nature, de santé sociale. J'ai l'air très savant. En fait, tout simplement, il y a une synthèse que vous avez copilotée, qui vient de paraître et qui s'appelle « Effets bénéfiques des espaces de nature en ville sur la santé », qui est signée Plante et Cité et qui est la synthèse de cette veille active. Qu'est-ce qu'on peut citer comme services psychosociaux dont vous parliez tout à l'heure ? Rendu par la nature comme effet bénéfique.
Alors psychologique, mental et psychosociaux.
Oui.
Hein, alors, si vous voulez, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en fait, aujourd'hui, le fait d'être en relation avec la nature hein, va améliorer le bien-être, va améliorer l'humeur. Alors ça c'est mesurable, par exemple, par des baisses de consommation d'anxiolytiques,
mm-hmm.
hein, des baisses de consommation d'antidépresseurs, hein, on peut le mesurer, et donc qui montrent que ça a un effet positif au niveau des personnes. Voilà, alors je ne sais pas si... on explique un petit peu comment
allez-y,
ça fonctionne.
Allez-y, expliquons comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne
et comment ça fonctionne, c'est une voilà. excellente...
Bon, il y a des théories, je veux bien les aborder peut-être maintenant.
Oui.
Il hein, y a des théories qui explique que la nature hein, est bon pour la santé, notamment la santé mentale, je l'évoquais tout à l'heure. Alors, dans ces théories, il y en a une qu'on peut citer, c'est la biophilie.
Mm-hmm.
La biophilie...
Alors,
la fameuse biophilie.
Mise à toutes les sauces.
Voilà. Alors, qui a été présentée par Wilson, donc en 1981, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Hein, mais la biophilie, c'est simplement pour dire que l'homme est vivant. L'homme, donc... fait partie du vivant et a besoin de nature pour s'épanouir. Voilà. Mais la biophilie n'explique pas beaucoup de choses.
Donc, oui, c'est un constat. C'est,
ben c'est un constat qui... c'est important, je veux dire, de le répéter.
De le répéter.
Hein, de ne pas l'oublier. Justement.
Mais après, quels sont les... Je crois que vous parlez de déterminants, mais, c'est ça ?
Alors après, il y a d'autres théories. Alors peut-être qu'on y reviendra après, peut-être. Mais il y a d'autres théories qui expliquent aujourd'hui beaucoup plus précisément comment la nature va agir sur la santé mentale des habitants. Vous évoquez la notion de déterminant. Alors, il y a en France une école qui s'appelle l'École des hautes études de santé publique qui a travaillé sur les déterminants de santé. Alors, je disais tout à l'heure que la santé bougeait et santé avait plusieurs facteurs qui pouvaient intervenir, donc on appelle des déterminants de santé. Ces déterminants de santé peuvent être à l'échelle de l'individu, peuvent être à l'échelle de leur milieu de vie, peut être à une échelle aussi du contexte général plus grand, c'est-à-dire au niveau de la société et au niveau de la planète. Donc on a plusieurs niveaux auxquels les déterminants peuvent agir sur la santé de l'individu. Et puis, ce qui est très important, ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les acteurs de la santé qui ont dit que les espaces végétalisés, la nature dans l'espace urbain constituent un déterminant de santé. Oui. Mais comment ? Je pense qu'on en parlera.
Allons-y, hein, et détaillons un petit
comment,
peu.
Comment ? Mais aussi, comment le mesurer ?
Oui. Alors ça, on va le voir tout à l'heure, comment le mesurer. Une petite question complémentaire. On voit bien qu'il y a beaucoup d'études qui sont corrélatives, qui nous expliquent qu'il y a des bénéfices. Et là, vous allez plus loin, vous expliquez comment, pourquoi est-ce que cela est bénéfique ? Est-ce que tous les espaces de nature sont favorables à la santé ? Réponse courte, s'il vous plaît.
Alors, réponse courte, je ne sais pas faire. Non, je pense que c'est un sujet quand même hyper important. Mm-hmm. Mais il ne faut pas qu'on fasse basculer le curseur du mauvais côté.
Oui.
Donc, je commence pour dire quand même qu'on accepte tous, on est tous convaincus que la nature est favorable pour la santé.
Mm-hmm.
Ça, c'est la première chose. Bon, après, on a depuis des décennies essayé de mettre du végétal dans la ville. On a essayé de faire très, très bien les choses. Mais on n'avait pas les connaissances qu'on avait aujourd'hui. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a peut-être certains espaces de nature qui ne sont pas très efficaces.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on peut optimiser leur efficacité pour qu'ils soient favorables pour la santé. Et puis, pour arriver à votre question, effectivement, il peut y avoir des situations où la nature n'est pas efficace pour la santé. Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une sensibilité individuelle. On a tous un besoin de nature, mais qui est différent. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience de nature.
Mmh.
On a tous une expérience de nature qui est différente. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Quelqu'un qui, étant jeune, a été agressé dans un espace de nature, va garder cette expérience dans ce qu'on appelle le corps vécu.
Mmh.
Et donc, à chaque fois qu'il se retrouvera à cette expérience de nature, il aura des émotions négatives. Voilà. Donc là, effectivement, c'est une réponse, on va dire, individuelle.
On vient avec son histoire, son vécu.
On vient avec son histoire, avec son vécu, qu'on peut faire, bien sûr, évoluer. Après, il y a aussi la nature des espaces. Et ça, je pense que c'est cette question qui vous intéresse.
Aussi, c'est aussi l'ensemble des questions nous intéressent. Alors, quel est l'impact de la nature des espaces?
Dans la nature des espaces, donc on a, parlé tout à l'heure, fait une thèse sur le sujet.
Oui.
Mais en fait, la composition des espaces va faire que certains vont être plus ressourçants, moins stressants, plus sécurisants pour les gens, donc plus bénéfiques pour la santé, et d'autres, au contraire, ne le seront pas.
Et par exemple, est-ce qu'on sait si il y a des espaces dont on peut dire la configuration, entre guillemets, d'un paysage qui est plus favorable à la santé?
Alors, oui. Aujourd'hui, nous pouvons le dire. On n'aurait pas pu le dire hier, mais aujourd'hui, nous pouvons
aujourd'hui,
le dire.
Aujourd'hui, c'est possible.
Voilà. Donc, il y a une thèse qui a été réalisée par Bastien Vajou.
Qu'on salue, Bastien.
Voilà. Dans une approche pluridisciplinaire. Donc, nous, laboratoire, veut dire végétal.
Oui.
Un laboratoire de psychologie. Laboratoire de psychologie de l'Université d'Angers. Et puis, l'association Plantes et Cités.
Mmh.
Et donc, dans ce travail, on a... Alors, l'originalité de ce travail, c'est qu'on a travaillé sur le terrain. On a été sur le terrain avec des personnes dans un espace végétalisé dans la région d'Angers. Et là, on s'est aperçu deux choses. C'est que, en fait, les espaces qui sont plutôt fermés, les espaces qui sont plutôt, on va dire, complexes, avec des buissons pour lesquels il y a aussi de la verticalité, eh bien là, les gens vont plutôt avoir une étude analytique de l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont analyser l'espace, tous les éléments de cet espace. Et ça sera plutôt défavorable au fait de se relaxer, de se détendre. Voilà. Contraire, les espaces qui sont plutôt ouverts, où il y a des perspectives, où en fait l'œil va s'évader quelque part. Voilà.
Ne pas fixer un premier plan forcément.
Voilà, ça va plutôt être restaurateur. Et derrière ça, je disais qu'il y avait deux choses. Donc la deuxième, c'est quoi? C'est que ça va encore une fois dépendre de l'individu. C'est-à-dire que des gens qui ont une nature, on va dire, plus anxieuse, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quand ils vont dans un espace complexe, ils vont être inquiets. Ils vont avoir une approche encore plus analytique. Et donc, ça va être encore plus défavorable à leur santé. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours favorable. Mais en tout cas, on peut tout faire pour que ça le devienne.
Exactement. Et c'est une excellente perspective qui va nous amener très vite à la deuxième partie. On voit que c'est passionnant, c'est dense. On a essayé ensemble de le reformuler pour vous, auditrices et auditeurs. Alors, avant de poursuivre, une petite pause musicale.
Nature urbaine, le reportage.
Et oui, un intermède musical en guise de reportage. Il est un peu plus de 5 heures de l'après-midi. It's tea time. Nous vous proposons une véritable pause avec un morceau instrumental extrait d'une compilation bien nommée Music for Tired Gardeners. La musique pour les jardiniers fatigués. Pour améliorer mon accent anglais, sous-titré, une sélection de musique classique inspirée par les jours passés au jardin de notre voisin perfide Albion et édité par le National Trust. Ce morceau est intitulé « Suite from the Victorian Kitchen Garden », prélude, avec à la clarinette Emma Johnson, accompagnée par l'orchestre de la BBC. Prenez donc une cup of tea avec un nuage de lait et détendez-vous, rendez-vous dans 3 minutes.
Nature urbaine, l'interview, deuxième partie.
Quel contraste entre ce petit morceau so British et les Guns N' Roses. Retour sur le plateau de Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville, pour ce premier épisode de notre mini-série « La nature, c'est la santé » en compagnie de Gilles Galopin, enseignant-chercheur en biologie végétale. Alors Gilles, dans cette deuxième partie, nous allons donner quelques clés d'action après avoir posé le cadre, complexe mais stimulant, pour créer de meilleurs équilibres entre humain, ville, nature, au bénéfice notamment de la santé. Mais avant cela, pour mieux comprendre votre engagement dans ce sujet, brossons votre portrait à grands traits. Dans les années 80, vous entrez à l'école des ingénieurs en horticulture d'Angers par la voie des ingénieurs de l'État. Cela explique votre engagement durant plusieurs années au sein du service public que finalement vous n'avez jamais quitté. Vous êtes né, on peut le dire sans vous trahir, dans la Beauce. Vous menez, en parallèle de votre carrière dans l'enseignement agricole, la conduite de l'exploitation familiale. Cela vous amène, aux prémices des changements de méthode culturelle, à créer une entreprise d'ULM pour réaliser la surveillance biologique et le traitement ciblé des grandes cultures céréalières. Devenu enseignant-chercheur, vous nouez rapidement des liens avec le tissu économique que l'on qualifierait aujourd'hui, peut-être un peu pompeusement, d'écosystème d'acteurs du végétal. Vous êtes d'ailleurs le papa de la multiplication des hydrangeas par micro-pied-mer, une technique utilisée depuis par tous les grands producteurs européens de ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin qu'on appelle communément les hortensias. Ensuite, vous vous entichez d'architecture des végétaux sur les traces de Francis Allais. Alors, il s'agit pour nos auditrices et nos auditeurs, pour faire court, de décrire la manière dont les végétaux croissent et se développent. Et déjà, vous croisez cette approche d'agronome et de biologiste avec l'analyse sensorielle en définissant des protocoles permettant, avec toute une technique, de mesurer l'impact de la forme des plantes sur les comportements des consommateurs. Voyant le développement, alors à grands coups de néologisme de l'agriculture urbaine et de la végétalisation, vous avez voulu mettre un peu de science là-dedans pour former des élèves ingénieurs à AgroParisTech et à l'Institut Agro en créant un cursus de master inédit dont je crois le succès ne se dément pas, ingénierie des espaces végétalisés urbains. Et dans votre grand jardin, une ancienne ferme du château du Plessis-Massé, s'il vous plaît, près d'Angers, vous initiez différents projets scientifiques et associatifs autour du végétal et de la santé. Et ça vous conduit aujourd'hui à être membre du comité territorial santé de Maine-et-Loire et membre de la commission santé-prévention de l'ARS, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Rien de moins. Alors, vous vous entichez de cette relation entre le végétal et la santé. Cette description de votre itinéraire, qui est un petit peu approximative, et je vous prie de m'en excuser, elle témoigne d'une grande richesse. Et je peux en témoigner, auditrice, auditeur, vous avez à cœur de créer des liens, des passerelles, et de transmettre, nous le verrons notamment, avec un témoignage dans la deuxième émission. Gilles, question simple, qu'est-ce qui vous fait courir ?
Ah, vous trouvez que c'est une question simple ?
Alors la question est courte, mais elle n'est peut-être pas si simple que ça en effet.
Alors elle n'est pas simple, mais je vais répondre.
Et je vous en remercie.
Alors, je crois que je suis de nature optimiste. Mmh. Voilà. Peut-être parce que je suis admiratif, spécialiste des arbres, qui sont quand même les plus vieux êtres vivants sur Terre, mmh. 3000 ans, qui sont probablement les plus grands, hein, 100 mètres de haut. Et surtout, les plus plastiques. Ils ont été capables de s'adapter à des changements d'environnement. Un arbre qui est né en milieu rural, qui a grandi en milieu rural, se retrouve aujourd'hui, en voyant son environnement qui a été transformé, qui a été minéralisé, en plein milieu de la ville, et il continue à vivre. Donc cette plasticité, je pense que c'est considérable. Alors, je vous avais parlé de Francis Allais, donc je vais en parler aussi.
Ah oui.
Ah, bien sûr. Francis a dit un jour, si l'homme laisse la forêt tranquille, dans 800 ans, on retrouvera des forêts primaires. Voilà. Et donc ça, c'est une magnifique note d'optimiste. Donc il faut rester optimiste. Il ne tient qu'à l'homme de prendre modèle sur la nature, d'être pacifique, collaboratif, inventif, humble. Il faut savoir dépasser les barrières des langues, les barrières des disciplines, des intérêts personnels pour aller dans un seul sens, celui de la vie.
Ben c'est un magnifique plaidoyer et qui explique cette colonne vertébrale entre toutes ces expériences de ce parcours riche. Plus précisément, quel est le cheminement qui vous a amené à vous intéresser au sujet des relations entre nature et santé ?
Alors, je crois que, comme je disais, l'arbre m'a inspiré. Mmh. Hein, mais pendant longtemps, en fait, on mettait du végétal en ville pour faire beau. Hein, mmh. On parlait d'ornement. Mmh. Ça m'a longtemps intrigué, quoi, de réduire la nature à cela.
À une ornementation.
Voilà,
un décorum.
Voilà, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, effectivement, je me suis posé la question de la perception de cette nature par l'être humain. Donc, on parle de sensoriel. Et donc, d'ailleurs, on a rédigé une thèse sur l'analyse sensorielle du végétal par l'être humain. Et puis, quand on parle de sensoriel, il n'y a qu'un pas pour parler d'émotionnel. Mmh. Donc l'émotion que ça génère, positive ou négative, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mmh. Et quand on parle d'émotion, eh bien, il n'y a qu'un pas pour savoir si cette émotion a un impact sur le bien-être de l'individu. Et aujourd'hui, quand on sait que la ville, hein, c'est un enjeu considérable de notre société, avec 60% au niveau mondial, les gens qui vivent en ville, avec 80% dans des pays développés, bah, la santé dans le milieu urbain est essentielle. Et donc, nouvelle place dorée qu'on peut faire à notre végétal et à notre nature dans l'espace urbain.
Alors c'est extraordinaire, pour reprendre la métaphore avec Francis Allais, vous savez, qui a créé le radeau des cimes pour explorer les forêts primaires. En fait, Gilles, de recherche en recherche et de recherche en application, vous découvrez de nouvelles disciplines, vous tirez l'ensemble des relations et c'est ça qui vous amène à vous investir à fond dans un sujet, et j'espère que vous qui nous écoutez, vous découvrez la passion et le sérieux scientifique avec lequel Gilles travaille. Alors, dans les recherches actions, justement, vous avez initié des recherches avec l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire pour déterminer à la fois une méthodologie et puis aussi des indicateurs de mesure à l'échelle des quartiers pour mieux intégrer la nature dans de nouveaux équilibres au bénéfice de la santé. Que pouvez-vous nous dire de ces recherches et des conclusions auxquelles elles vous amènent ?
Alors, juste une petite précision, ça a été mené avec l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, mais aussi avec la Direction régionale de l'environnement et du logement. Mmh. C'est important.
Oui, hein. Surtout ici, à Radio Immo, voilà. Et territorial.
Et ça a été fait dans le cadre ce qu'on appelle un programme régional environnement-santé. Il faut savoir qu'il y a un programme national environnement-santé. Voilà. Donc ça s'est fait dans ce contexte, encore une fois, très pluridisciplinaire. Donc tout à l'heure, j'ai dit, il y a un déterminant de santé qui est la nature dans l'espace urbain. Et la question, c'est comment le mesurer, comment l'évaluer, et surtout comment, une fois qu'on l'aura évalué, on pourra faire changer les choses. Alors, pendant longtemps, on a pensé bien faire, et d'ailleurs on a bien fait un certain nombre de choses, c'est qu'on a conçu en fait notre ville en se basant sur des modèles, en basant sur des éléments empiristes qu'on a pu récolter. Je pense qu'aujourd'hui, on passe à une autre échelle. Dans la ville, c'est l'homme qui vit dans la ville. Enfin, l'homme avec un grand H.
Avec un grand H, évidemment. Voilà.
C'est lui, c'est son lieu de vie. Et je pense que c'est l'acteur principal vers qui il faut se tourner.
Mmh. C'est plus simplement la technique et les modèles, c'est ça que vous
dites ? La technique est au service de l'individu et de sa santé. Voilà. Et donc, c'est dans cet esprit, en fait, que
vous avez travaillé.
Que la méthode a été construite. Alors, d'autant plus que quand on parle d'urbanisme favorable à la santé, hein, ce qui est un terme que vous avez certainement déjà entendu parler, on a des informations à l'échelle d'une ville. Hein, on va dire aujourd'hui, voilà, on qualifie les villes par rapport à la surface d'espace vert habitant, par rapport au nombre d'arbres par habitant, hein, 0,2 arbres par habitant, voilà, ça c'est très mathématique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le quartier. L'individu vit dans son quartier. Hein, c'est son lieu de vie, c'est son lieu de déplacement, et c'est là qu'il va trouver les éléments de ressources pour sa santé. Donc, on s'est mis à l'échelle du quartier, et on s'est mis également à l'échelle de l'individu. Et la particularité de la méthode, c'est qu'on mesure l'usage, alors le mot n'est pas très beau, mais il évoque bien les choses, on utilise l'usage des espaces de nature pour la santé de l'individu. Donc, d'un côté, on évalue l'offre en espaces de nature. De l'autre côté, on regarde la santé des individus avec un certain nombre de mesures. Et puis, on regarde la relation entre les deux. C'est-à-dire que si vous avez une offre, qu'elle soit la plus belle possible, si elle n'est pas utilisée par les habitants, elle n'aura aucun impact sur la santé.
Il n'y a pas d'expérience. Voilà. On revient à ce sujet.
À l'expérience de nature. Et si les habitants sont entourés de super espaces, mais qui ne voient pas l'intérêt d'aller dans ces espaces, il n'y aura pas non plus d'impact sur la santé. Donc le fait de mesurer cet usage, de voir les relations qu'il peut y avoir entre les deux, permet d'avoir deux applications. La première, c'est d'avoir un retour sur la conception de ces espaces. Alors, je vous donne un exemple. Un super espace qui n'est pas utilisé parce qu'il n'est pas visible. Des gens qui habitent là depuis 5 ans et qui n'ont pas vu qu'il y a un espace parce qu'il n'est pas visible.
Et ça, vous l'avez mesuré à travers un espace concret, vous avez pu percevoir ça?
Ça, on l'a mesuré, précisément. Hein, ou des bancs dans un espace qui ne sont jamais utilisés. Pourquoi ? Parce que l'emplacement où ils sont mesure une impression d'insécurité lorsque les gens sont assis. Voilà. Ça peut être des petites choses, ça peut être aussi des grandes choses, hein, avec un besoin de réfléchir de façon beaucoup plus large sur l'aménagement, l'urbanisme et autres. Et puis, l'autre conséquence, c'est d'intervenir auprès des habitants. Leur expliquer que c'est important. Alors, je vais vous donner un petit résultat quand même très important,
hein,
qui n'existe pas dans la biblio, pas encore, mais qui fait qu'aujourd'hui, on a mesuré, donc ça a confirmé de façon scientifique, mais que le fait d'aller régulièrement dans des espaces a un impact très favorable sur la santé mentale. Aller une fois par semaine faire son footing, ça a un impact sur la santé physique, mais régulièrement dans des espaces, c'est important pour la santé mentale. Donc revenons aussi aux petits espaces de nature, au pied de votre immeuble, et entre guillemets, qui pourrait être votre cinquième pièce de vie.
Voilà. La fameuse.
Et ça va parler cinquième pièce de vie.
Aux professionnels de l'immobilier et l'ensemble de cette filière qui travaille à l'échelle plus modeste que celle du quartier, qui est celle de l'île au bâti, notamment. Vous avez déterminé des éléments de méthodologie avec ces partenaires. Est-ce qu'on peut en donner quelques grandes lignes? Et puis, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission, donner aussi un exemple de clé, pour faire un clin d'œil aux clés de la ville, qui est une des émissions de Radio Immo, pour un élu, un responsable d'une société d'aménagement, voire un promoteur. Donc, quelle méthodo, première question. Et la deuxième chose, c'est si on veut démarrer dans ce sujet, par quoi on commence?
Alors, en termes de méthodo, tout à l'heure, je parlais d'analyser l'offre. Donc, l'offre, on a adapter des outils qui sont dans la méthode pour en fait analyser l'offre de façon relativement simple. On n'est pas, c'est pas une analyse paysagère, mais qui est adaptée en fait à cette relation nature-santé. Voilà. Au niveau de la santé, alors c'est un sujet très compliqué. Donc heureusement qu'on a travaillé avec nos partenaires de la santé. Aujourd'hui, on récolte des données de santé, alors soit des données épidémiologiques qui existent à une échelle plus grande, soit des données de santé au niveau de la santé générale des gens, au niveau du stress, qui est un élément extrêmement important,
et également au niveau de l'expérience de nature. Alors, je vais juste donner un exemple aussi.
Bien sûr.
On a travaillé dans un quartier plutôt à logement locatif et collectif, avec une mixité sociale importante. Mmh. Et donc, si on ne fait pas l'effort de comprendre quelle est l'expérience de nature de ces gens, qui ont une histoire extrêmement différente les uns et les autres, oui, on passe à côté. Voilà. Donc, ce sont des indicateurs qui sortent de la méthode, enfin qu'on peut faire ressortir grâce à l'application de cette méthode et qui peuvent nous permettre de faire évoluer nos espaces dans le bon sens. Alors, votre question, c'est comment on fait ? Alors, juste pour vous dire, il y a un guide qui sort la semaine prochaine. Voilà. Il sera en ligne. Et donc, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de contacts avec un certain nombre de villes de France qui souhaitent appliquer la méthode dans certains quartiers auxquels ils veulent faire des aménagements ou auxquels ils se posent un certain nombre de questions sur cette notion de santé nature. Donc, adressez-vous, plus simple, à l'association Planticité, mm-hmm, qui gère en fait cette mise en relation et qui, avec qui on, et on pourra donc accompagner, hein, les villes qui ont ce projet pour mettre en place cette méthode et puis apporter des éléments de réponse.
Et voilà, et vous verrez donc en quoi les espaces de nature de la ville de la douceur, Angers, ont permis d'élaborer donc cette méthode qui permet à la fois de qualifier ces espaces dits de nature et puis aussi d'évaluer des éléments de santé. Gilles, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour ce premier épisode ? On se donne rendez-vous très bientôt.
Alors, on se donne rendez-vous et puis soyons optimistes.
Soyons optimistes. Alors Gilles, cette première déambulation sur les chemins des relations entre nature, ville et santé s'achève. C'était un plaisir vraiment de vous avoir à nos côtés. Nous espérons, chères auditrices, chers auditeurs, que vous avez découvert de nouvelles connaissances sur un sujet passionnant qui s'appuie sur les sciences. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un deuxième épisode consacré au jardin de soins. Cette émission a été possible grâce à la ténacité de Sylvain et Olivier, avec à la technique Baptiste, Jason et Théo. Merci à tous. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Nature urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie.